Bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas la technique. Ce mardi froid. Première partie d'émission, quelques sujets que j'ai choisis pour vous. Et en deuxième partie, on va recevoir Evelyne Abitbol pour son livre Rilke, l'Andalou, l'Andalousie, bien sûr. Restez à l'écoute. Et on part tout de suite en musique. Avec qui? Une franco-portugaise, Lucia. Liberté.
Troisième millénaire, le monde est en guerre contre ces fous alliés qui veulent nous imposer leur façon de cacher mes peines, partie remise, rien n'est perdu d'avance. Si le monde ne tourne pas rond, moi je lui donnerai un sens. Je rêve d'une union, d'une renaissance. Voyons la colombe qui traverse le monde, donnons-nous une deuxième chance. Soyons la colombe que l'amour nous inonde, notre force et nos différences. Sans
liberté franco-portugaise. Elle vit en France, bien sûr. Alors, tout de suite, je vais vous parler de Champions League, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain aujourd'hui qui a vu un festival de buts face au champion belge, Bruges. 4-1. Je vais pas dire, comment dirais-je, Voilà, un score fleuve. Non, le score fleuve, c'est à 0. Si c'était 4-0, 5-0, j'allais dire un score fleuve. Mais 4-1, voilà, c'est un festival de but quand même. 2 Mbappé, 2 Messi. Alors, ça fait du bien, ça. Mais le problème pour Bruce, c'est que de toute façon, il n'avait pas grand-chose à gagner là, parce que le Paris Saint-Germain était déjà qualifié d'ailleurs pour les huitièmes de finale de Champions League, la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, là, ça s'est passé. C'était vraiment un festival, une vraie chorégraphie, un vrai spectacle. Voilà. Donc, le PSG termine cette phase de groupe. C'est une bonne note d'ailleurs, déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Et assuré de terminer deuxième de la poule. Les Parisiens, ils ont facilement dominé Bruges aujourd'hui. Ouais. Mbappé et Lionel Messi ont marqué chacun un doublé, quoi. Donc, c'est les deux attaquants de pointe. Donc, ce n'était pas une symphonie, mais le PSG a montré un beau jeu. Avec un nouveau solo de Kylian Mbappé et Lionel Messi, chef d'orchestre. Alors, allez-y voir le spectacle. Hein. Ah, j'ai vu quelques... Disons le résumé du match. Là, tu te dis, waouh, quelle beauté. Donc, les supporters du PSG ont reçu ce spectacle-là pour ce match qui ne changeait rien d'ailleurs à le classement. Mais qui élimine les champions de Belgique de toutes les coupes d'Europe. Oh, les pauvres Belges. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux plus ajouter. Plus rien ajouter là-dessus. Ils vont se rattraper l'année prochaine. L'année prochaine. C'est comme ça le sport. Hein. Il faut être fair play. Quand on gagne, on gagne. Quand on perd. Et puis bon, ben, on se remonte les manches. On se retourne les manches. Et puis bon, ben, l'année suivante, on fait mieux. Quoi. C'est là où je veux en venir. Alors, pour ceux qui nous ont suivis hier, pour ceux qui ont écouté l'émission Escale disait du jeudi avant, j'avais reçu la directrice générale de la Fondation des Jeunes de la DPJ. Voilà, bon, là, c'est le cri de cœur d'Anaïs Favron, qui est porte-parole d'ailleurs de cette fondation, quand Noël rime avec abandon. Voilà, disons, cette année, ils espèrent pouvoir réunir en famille durant les temps de fête, croire les doigts pour ne pas revivre l'événement de l'année dernière. Si vous le pouvez, donnez, faites le don, faites le petit geste. Les Noëls de l'enfance, de nos enfances d'ailleurs. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, les Noëls de mon enfance étaient remplis de magie, de rire et d'amour. Et j'ai reproduit la même ambiance avec mon fils lorsqu'il était petit. Nous emballions des cadeaux ensemble sur un papier brun, puis on dessinait des œufs personnalisés. Chaque année, on écoutait des films de Noël en mangeant du pop-corn dans notre nouveau pyjama. Et que dire des festins de reste qui duraient 3 jours. Voilà, il faut se dire, comme je disais hier quand j'avais reçu la directrice générale, le don, là, c'est pas seulement en période de fête comme ça qu'il faut le faire. On peut le faire toute l'année. Voilà, pour que la fondation ait assez d'argent dans la caisse, dans le tiroir, pour pouvoir subvenir aux besoins de ces jeunes en difficulté. Là, je reviens là-dessus. Parce que moi, ça me fend le cœur. Quand hier, je donnais les différentes statistiques, les nombres de jeunes qui sont en difficulté depuis des décennies, la pandémie a encore accéléré la situation, a empiré la situation de ces jeunes. Donc, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Donnez. La période de fête est très souvent souffrante pour les enfants hébergés. Ouais. On en a parlé avec la directrice. Ouais. Je voulais revenir là-dessus parce que la nouvelle porte-parole, Anaïs Favron, la comédienne, elle acceptait d'ailleurs parce qu'elle aussi, elle voulait offrir quelque chose à ces jeunes-là, voilà, qui sont en attente d'aide, qui sont en difficulté, qui ont besoin de qu'on leur tende la main aussi pour arriver à sortir du fond du puits pour pouvoir reconstruire leur vie à eux, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Oui. Il y a la solitude, j'en parlais hier, il y a l'anxiété, et puis bon, quand ils partent de la manière de se remettre dans la société des autres, c'est pas aussi facile que ça, il faut y aller. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y sur le site, hein. La Fondation Jeune DPJ, en un seul mot, jeune au pluriel, Fondation DPJ, fondationjeunedpj.ca, vous allez voir. Toutes les informations là-bas, si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, allez sur le site et puis vous allez donner du sourire à ces jeunes gens. Vous allez donner l'opportunité à ces jeunes gens de manger à leur faim, d'être bien encadrés à travers ces différentes fondations. c'est pas la seule fondation des jeunes des BJ. Il y a pas mal de fondations et il y a des centres de jeunesse qui collaborent ensemble avec ces fondations qui s'occupent des jeunes du Québec. Voilà. Ils sont victimes de tout, hein. Abus physiques, les mauvais traitements psychologiques, la négligence qui consigue à 64% des signalements de Québec. Plus de 45 000 jeunes sont suivis par la DPJ dans la province. Donc à l'approche des fêtes du temps des fêtes, nous avons tous le pouvoir de faire une différence pour les jeunes de la DPJ. Voilà, je vous le signale comme ça. Je reviens là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Qu'on ait des enfants ou pas, on a des frères et sœurs et des amis qui ont des enfants. Ça, c'est très important. Il faut le notifier. Il faut faire le petit geste pour que ces enfants puissent retrouver un petit sourire. Voilà, un petit bonheur. S'il existe vraiment le bonheur, ou bien semblant de bonheur, pour reprendre la vie en main. Voilà. On va en musique avec Suzy Ice et la complicité de DJ Maforiza. On y est. C'est avec la complicité du DJ Maforiza. On l'y eu. Voilà, je vais parler un peu d'inégalité parce que là, le World Inequality Lab, ça dit que c'est l'iné. l'Inequality World Lab, qui c'est un organisme qu'a publié aujourd'hui d'ailleurs, c'est les inégalités riches-pauvres qui ont augmenté depuis la pandémie, au plus fort en 110 ans. Cette pandémie a permis à des gens de s'enrichir encore plus, hein, aux riches de s'enrichir encore plus, et les pauvres de devenir encore plus pauvres. Voilà, donc les inégalités entre hauts et bas revenus ont explosé ces dernières années, atteignant le plus fort depuis 110 ans. C'est vraiment effarant, quoi, ouais. Notamment dans les régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, bien sûr, les inégalités se creusent toujours plus dans le monde. C'est pas seulement, je cite comme ça parce que ce sont pas les pays seulement, ce sont pas ces régions du monde qui sont touchées, hein. Tout le monde entier, même les pays dans les pays riches, c'est pareil. Voilà, les gens les plus riches sont devenus plus riches et les gens pauvres, voilà. Ils ne deviennent pas riches et ils deviennent encore plus pauvres. Voilà, c'est... Dans ce rapport d'inégalité mondiale, ça c'est bien ça. Voilà. The World Inequality Lab. Oui. Co-dirigé par l'économiste français Thomas Piketty, qui a été publié aujourd'hui quant à ce que les riches sont de plus en plus riches. Ouais. Ils ont notamment profité de la pandémie. Donc les résultats de cette enquête d'ailleurs sont sans appel sur la persistance des inégalités. Ça c'est très important, c'est ce qui fait que je tenais à en parler à de nombreuses données qui ont été récoltées par des économistes aux quatre coins de la planète montrent un élargissement du fossé entre populations. Donc les personnes se situant dans les 50% les plus pauvres possèdent 2% du patrimoine mondial. Je dis bien. Les personnes se situant dans les 50% les plus pauvres possèdent 2% du patrimoine mondial, quand les 10% les plus aisés s'accaparent 76%. Suivez mon œil, suivez mon regard. Voilà, ça veut tout dire. C'est triste, hein, une triste réalité. Suivez mon regard. Voilà, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, ainsi que l'Amérique latine sont les régions du monde les plus inégalitaire, ça c'est clair. Parce qu'il y a des petites minorités qui sont riches et ils montent tellement leur opulence dans ces régions-là aussi. En Occident aussi, bien sûr. Voilà, je ne suis pas en train d'indexer certaines régions du monde sans toutefois parler de l'Occident. Il y a des riches dans les pays, soi-disant riches, qui sont très très opulents. Ils ont une vie opulente qui ne regarde même pas le pauvre à côté. Voilà, c'est. Et plus globalement, la part de la richesse mondiale possédée par les super riches a triplé en 25 ans. Oui. Et le rapport démontre aussi que la pandémie, elle leur a été bénéfique. C'est ça la tristesse dans tout ça. On profite du malheur des uns. Voilà, ça le fait leur bonheur à eux, quoi. Oui. En 2020, les milliardaires ont augmenté leur patrimoine de 3 600 milliards de dollars. Voilà. Nicolas, je vois ton visage, il ne faut pas être triste. Nicolas, c'est mon complice à la console là-bas. Je vois son visage. Quand il entend des chiffres comme ça, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans quel monde on vit? Moi aussi, je me suis demandé dans quel monde on vit quand je vis ce rapport. Je dis bien, en 2020, les milliardaires ont augmenté leur patrimoine de 3600 milliards de dollars. Et souligne d'ailleurs un des co-auteurs du rapport, c'est l'équivalent des dépenses annuelles de santé de l'ensemble des États du monde. Voilà. Ça, c'est. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus encore? Et puis, les différences de revenus, de mecs progrès ont été réalisées, bien sûr. Actuellement, on parle d'inflation. Il y a combien de gens qui ont eu des augmentations de salaire dans la basse classe, dans la basse échelle de la société? Non, je pense pas. Mais c'est encore loin d'être exemplaire. On est revenu au niveau des inégalités, il y a un siècle, les 10% les plus riches gagnent 38 fois plus que les 50% les plus pauvres, soit des inégalités aussi grandes qu'en 1910. Tu t'imagines? Ce que nos grands-grands-parents ont vécu, là, ça se répercute aujourd'hui, où les riches étaient riches et puis les pauvres étaient pauvres. Voilà, pour la dernière minute, rapidement. Aux États-Unis, il y a un patron qui a licencié 900 salariés dans un seul Zoom. Il était en Zoom avec ses employés, puis il a licencié dans l'immédiat 900 employés sur Zoom. Visioconférence. Quelle impolitesse, quelle manière de fonctionner. 900 salariés. Voilà, Je ne comprends pas les gens. Si tu n'as plus besoin de ces gens, ce n'est pas la peine de faire du Zoom, de la visioconférence avec eux. Simplement les rencontrer ou bien faire une réunion ou non, au travail et dire que non, vous êtes licencié. Oui, vous, je n'ai plus besoin de vous, allez-y. Mais en Zoom, quand tu apprends ton licenciement par Zoom, ta journée est foutue pour de bon. Hein. Mais ils vont se relever. Je leur envoie de l'énergie positive. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, on va à musique ? Oui. titre de la pièce est Black Parade. L'original est de Beyoncé, n'oubliez pas. Alors, je reviens sur cette compagnie. Je ne vais pas dire son nom. Sur cette compagnie, je n'ai pas envie de faire de la publicité pour elle. Et 900 employés licenciés par téléconférence, par Zoom. Et je voulais préciser que les licenciements par téléconférence, par Zoom, sont légaux aux États-Unis. Voilà. Donc, même si c'est légal, c'est pas un moyen de se séparer des gens qui t'ont fait gagner de l'argent. Voilà. Qui ont participé à l'épanouissement de ton entreprise. Cette manière de faire, cette manière cavalière de se séparer d'eux en fin d'année, surtout comme ça. Alors, comme je l'ai dit avant la pièce musicale, je leur envoie de l'énergie positive pour que ces gens, ces 900 personnes, puissent se remettre sur leurs jambes et puis trouver quelque chose de mieux, un nouvel emploi et mieux que ce qu'ils avaient dans cette compagnie dont je préfère taire le nom d'ailleurs, parce que je n'ai pas envie de faire la promotion ici. Voilà, un chef d'entreprise qui n'a pas de scrupules, comme ça, je ne fais pas sa promo ici. Et puis son attitude même, selon les anciens employés là d'ailleurs, envers eux, sa manière de se comporter d'une manière, pas de politesse, pas de sympathie, pas de compassion, du tout quand ils avaient des problèmes, personne ne vient au travail, ça ne vaut pas la peine de faire la promo ici. Je pense seulement mes pensées pour ces 900 employés qui ont été licenciés de cette manière-là. Alors restez à l'écoute, on fait la petite pause publicitaire et puis on revient à la deuxième partie avec notre invité qui va parler de son livre, Evelyn Abitel, Rilke l'Andalou, c'est le titre du livre, aux éditions Nord-Sud, c'est bien ça, c'est tout nouveau, hein, 2021, voilà, tout frais, tout chaud, et je vous reviens tout de suite avec notre invité qui va nous parler de son livre.
#17/18 avec Fulgence Blas.
Say all kinds.
là, on vient d'écouter Beres Hammond, They Gonna Talk. Ils vont parler, ouais, ils vont parler de moi, voilà, des gens qui racontent des histoires dans le dos des autres. Alors, notre invité déjà au bout du fil, Evelyne Abitbol. Rilke la Landalou, c'est le titre de son livre tout frais, 2021. Voilà, illustration de Salvador Chica Jiménez, et puis bon, c'est aux éditions Nord-Sud. Anna, la narratrice admiratrice de Raina Maria Rilke, est venue en Andalousie, en Espagne bien sûr, sur les traces de l'âge d'or puis du poète autrichien, accompagnée d'un ami peintre, Salvador Chica Jiménez. Elle se rend à Ronda, où Rilke a vécu pendant quelques mois au début du siècle dernier. Là, elle rencontre Verda Veit, un jeune poète qui partage sa passion littéraire. Ils vont vivre une rencontre fusionnelle sous l'égide de Rilke. Anna évoque celle qu'il a aimée, Lou Andrea Salomé, et les autres hommes qui ont compté pour celle-ci, son mari qui ne l'a jamais touchée, Freud qui lui a confié l'éducation de sa fille, Anna, et Nietzsche, éperdument amoureux d'elle. Bonjour, Evelyne Abitbol.
Merci, bonjour, Abitbol. Vous allez bien?
Oui, je vais bien, merci. Je suis content de vous réentendre. Même si on ne peut pas se voir, on n'est pas en studio, là, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me suis dit, quand elle a vu mon nom là, dans le courrier d'invitation, je me suis dit, est-ce qu'elle va se rappeler de moi?
Mais bien sûr.
Evelyne. Alors, merci pour ce bijou, ce beau livre.
C'est gentil.
Oui, je l'aime bien. Permis aussi de l'Andalousie qui m'a toujours fasciné. Je ne suis jamais allé en Andalousie. Hein. Voilà. Oui, c'est. Vous êtes beaucoup plus là-bas qu'ici ou bien je ne comprends pas?
J'habite 6 mois par année en Andalousie, en fait, ce qui est légalement faisable, c'est-à-dire d'être 6 mois à l'extérieur du pays, 6 mois ici à l'intérieur du pays. Donc, je vis 6 mois en Andalousie, et ce, depuis 4 ans. Ce sera mon quatrième hiver.
Ok. Ouais, d'ailleurs, ouais, elle est née en Afrique du Nord, au Maroc. Journaliste Evelyne Abitbol a vécu la majeure partie de sa vie au Québec et elle a consacré une grande partie de sa carrière au dialogue des cultures et des civilisations, travaillé au sein d'organisations internationales et nationales à la défense des droits humains et de la démocratie. Elle est la cofondatrice, ça je dis bien la cofondatrice de la fondation Raif Badawi pour la liberté, FRBL. Elle partage maintenant sa vie entre l'Andalousie et le Québec. Et puis on dit bravo à l'illustrateur, l'aquarelliste andalou Salvador Chica, de très belles aquarelles, Oh, j'aime ces images là dans le livre. Ça coupe le souffle, je me dis comment ça fait la rencontre entre vous et cet aquarelliste.
Ah, écoutez, je l'ai rencontré à son anniversaire le 9 août 2018. Et c'était ma première journée à Malaga, c'était ma première journée en Andalousie.
Oui.
Et nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie. Et tout de suite, il m'a montré ses aquarelles et j'ai adoré, vraiment.
Oui.
C'était à couper le souffle, vraiment, vraiment à couper le souffle. Alors finalement, on est devenus très amis, très proches. Et un jour, il m'a dit « J'aimerais que tu viennes à Ronda. J'aimerais te montrer Ronda, ma ville natale. »
Oui.
Donc, j'ai dit « Bon, ben pourquoi pas ?» Alors, je suis allée à Ronda. Et en arrivant dans la ville de Ronda, d'abord, d'habitude, je regarde toujours sur Internet pour voir où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je vais voir.
Ou savoir où Evelyne s'en va.
C'était la première fois où j'ai rien vérifié.
Ah bon?
Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors j'étais impressionnée par le Taj en arrivant, le Tajo. Mais je croyais voir le Grand Canyon. Je me disais, mon Dieu, un canyon ici. Et puis tout de suite après, en arrivant dans la ville, je demande à Salvador qui existe vraiment. Parce que je l'ai nommé dans le livre, il est le peintre dans un de mes personnages. Mais c'est le seul personnage qui est vraiment réel dans ce livre-là.
Oui.
Parce que le personnage Verda Veit, il n'existe pas, je l'ai bien sûr imaginé.
Oui.
Mais Hannah, c'est un peu moi, pas tout à fait moi, et un peu beaucoup, ça dépend des moments du livre.
Oui.
Donc on arrive à Ronda, Et avant même qu'ils ne me reconduisent au Airbnb, j'avais réservé un Airbnb, il me dit, je lui demande, tu peux pas m'amener à l'hôtel Reina Victoria? Il me dit, comment tu sais qu'il y a un hôtel Reina Victoria ici? J'ai dit, parce que en voyant Rhonda, je me suis souvenu que Rainer Maria Rilke était descendu à l'hôtel Reina Victoria en 1912. Et là, je me suis dit, je voudrais voir cet hôtel. Alors, il m'a amené à l'hôtel. Et en arrivant à l'hôtel, il me dit, je crois qu'il y a une statue en bas vers le tarot. Wow. En arrivant, quelle ne fut pas ma surprise de voir la statue de Rainer Maria Rilke. J'en frissonnais. J'étais vraiment tellement impressionnée.
Oui.
Et en rentrant dans l'hôtel, en revenant, eh bien, je demande à voir la chambre 208. Je le raconte dans le livre. Hein, tout ça, je le raconte au début du livre.
Oui, oui, oui.
Et
oui.
Je demande à voir la chambre 208 et on me dit, ben, on a gardé la chambre 208 pour les clients, mais si vous voulez voir la chambre de Rainer Maria Rilke, elle est au fond du corridor. Nous l'avons reconstituée. Donc, à l'hôtel Reina Victoria de Rhonda, la chambre de Rainer Maria Rilke, la chambre 208, est reconstituée.
Oui.
Wow. Et donc, ouais, c'était fabuleux. Donc, je suis rentrée là où j'avais réservé, puis j'ai commencé. J'ai demandé à aller voir la librairie. J'ai acheté le livre de Rilke en Andalousie, qui est une petite plaquette d'Anthony Stevens. Et j'ai commencé à le lire en espagnol, mais c'était tellement minime que je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais bien faire une recherche de pour quelle raison il est venu ici. Qu'est-ce qui l'a attiré? Pourquoi il est venu? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui l'a vraiment attiré? Et là, je me suis mise à lire, mais de manière effrénée.
Oui.
Rainer Maria Rilke.
C'est pas vrai.
Pendant un an.
Donc c'est de là qu'est né ce bijou que j'ai entre les mains ici.
Pardon.
C'est de là qu'est né le bijou que j'ai entre les mains, le livre, je veux dire.
Voilà, exactement. C'est de là qu'est né ce livre-là.
Ouais, parce que quand j'avance dans le livre, j'ai dit, mais au fait, voilà, c'est l'histoire de, oui, effectivement, Rilke, l'Andalou, c'est clair. Et pour ceux, oui, ceux qui ne l'ont pas encore, c'est déjà en librairie. Allez-y vous procurer ça. C'est un bijou. Moi, je le dis, moi, je l'aime bien. Et puis, ça fait partie de la recherche de l'émission qui allait chercher au Salon du Livre. Et Evelyne l'a dédicacé pour Catherine.
Après, pardon.
Quand je vais finir, je vais lui remettre ça.
Catherine. Je devrais vous en envoyer un exemplaire absolument.
J'ai presque fini. Quand je vais finir, je vais lui envoyer. Elle m'a dit, ah non, j'ai dit non. Je lui ai dit, elle a dédicacé ça pour toi. Quand je vais finir, je vais te remettre le livre. Voilà.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a fait qu'après avoir découvert cette figure emblématique, vous avez pris votre crayon pour dire, tiens, je vais faire un livre sur lui, sur la personne.
Oui. Alors, ce qui m'a fascinée, c'est que moi, d'abord, j'ai été attirée par l'Andalousie, par Malaga. C'était un son qui, pour moi, était magique. Oh. Malaga, c'est un son. Et je suis allée, donc, en 2018, à l'été 2018. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas combien de voyages j'ai fait, une dizaine,
oui,
je crois. et je passe mes hivers là-bas. Alors, ce qui m'a attirée le plus, c'est... j'ai compris que la quête religieuse, la quête de sens, la quête philosophique de Rainer Maria Rilke, c'est-à-dire qu'elle était aussi ma quête à moi. Moi, c'était ma quête d'une nation. J'essayais de retrouver mes racines. Je suis née au Maroc, mais vraiment, je suis juive d'origine. Mais ma grand-mère était palestinienne, mon autre grand-père turc.
C'est tout un mélange.
Oui. Alors, tout ça a fait que je me disais, ben, je crois que mes ancêtres sont passés par ici.
Ah.
Parce que j'ai été tellement attirée par ce coin du monde,
oui,
que, immanquablement, il devait venir de là. Et là, quand je lisais Rainer Maria Rilke, son besoin, son immense besoin de solitude se rapprochait du mien. Et là, je voyais, franchement, j'ai fait un jeu de miroir avec lui. Ses rapports analogiques avec la religion, sa poésie qui transcende vraiment les poètes, les poésies des autres,
oui,
poètes,
oui,
m'ont tellement touchée. Et sa quête aussi des anges, vous savez, il avait comme cette espèce de pensée que nous étions encadrés par des anges.
Oui.
Alors
oui.
Il disait tout le temps ça, et que l'invisible était peuplé par les anges. Et il était toujours à la recherche du fait qu'un ange pourrait un jour lui répondre. Alors il s'adressait toujours à cette espèce de entre-deux, entre le ciel et la terre.
Oui, c'est ce que je découvre au fur et à mesure que j'avance dans les livres. D'ailleurs, j'ai dit,
vous savez qu'est-ce que Marguerite Yourcenar avait dit de Rilke?
Oui.
Elle avait dit que le souvenir de Rilke est maintenant devenu pareil à cette brise qui rouvre comme une rose de Jéricho le cœur desséché des solitaires.
Oh, quelle poésie, quelle poésie.
Ah, ouais. Elle avait dit, parce que Rilke fut triste, notre amertume est moins grande.
Oui.
Nous sommes moins inquiets parce qu'il vécut sans sécurité.
Oui.
Nous sommes moins abandonnés parce qu'il fut seul.
Quelle poésie.
Et c'est ce qu'on sent quand on lit Rilke.
Oui.
Et c'est ce qu'on sent quand on rentre profondément dans sa poésie. Vraiment, sa solitude, son besoin de solitude, son besoin d'essayer de trouver des sens un peu partout, de trouver des signes, de se laisser aller dans les signes également.
Voilà. Évelyne, on fait une petite pause musicale.
Mm-hmm.
Et puis on revient.
D'accord.
À tout à l'heure. Ouais.
À tout de suite. Mm.
J'ai quitté mon île quand on m'a envoyé. Je l'ai quitté tranquille, sans chanter ni pleurer. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier. Prendre le large vers mon île. J'ai quitté mon arbre. On a voulu le couper. J'ai trouvé les sables. Rien n'y était plus semé. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier. Prendre le large vers mon île. J'ai quitté ma terre. On a voulu l'acheter. On n'achète pas la terre. La terre, c'est moi. Un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée. Prendre le ciel vers les îles. Beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée. Prendre le ciel vers mon île.
tes berges, j'ai quitté mon île. Ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore, ce livre est préfacé par Michel Duchesne. Pourquoi mettons-nous tant de temps à trouver la paix ? Ouais, papa. Cette intrigante rencontre de trois êtres au cœur de Ronda, l'auteur, c'est-à-dire Evelyne, qui est au bout du fil, habite Bol, je ne veux pas écorcher encore son nom de famille. Ouais. Elle interpelle les trois religions les constituées avec, avant de naître à elle-même, que voilà joyeusement présentée, une toute autre trinité. Un récit tout en rondeur levé entre deux vallons. Dans ce Ronda mythique qui interpella aussi Orson Welles et Ernest Hemingway, l'auteur explore via Rainer Maria Rilke l'importance de la ralentie pour enfin s'entendre rêver. J'adore ça. Je fais tous les jours des progrès, quoique lentement, écrivait Cézanne à Rilke, éclairée ici par Habit Bol, avec une érudition époustouflante. Alors, c'est pour vous. Je pense que vous allez en faire de ça une trilogie, pourquoi pas. Ça ne va pas rester là comme ça, ce seul roman sur Rilke. Parce que vous avez découvert son univers.
Mais j'ai connu son univers, j'étais adolescente, et j'avais lu Lettre à un jeune poète.
Oui.
Et à un moment donné, j'avais lu le poème d'André Breton, Ma femme, L'Union libre. Ça s'appelait L'Union libre.
Oui.
Ma femme à la chevelure d'ébène, etc., etc. Mmh. Et je m'étais amusée à changer ma femme à la chevelure d'ébène avec un leitmotiv avec mon âme à la. Et je me souviens que Rainer Maria Rilke, en faisant cela,
Vous
vous souvenez que Rainer Maria Rilke avait dit surtout n'écrivez pas mon âme. Et moi, j'avais fait tout le contraire. J'avais forcé la dose pour justement écrire ainsi et voir si je parviendrais à écrire un poème à ce moment-là.
Oui, oui.
Alors, je me souvenais de Rilke à ce moment-là. Là-dessus, voilà. Et pendant tout mon périple en Andalousie, Rilke était avec moi pendant 2-3 ans, 2 ans à peu près. Il était avec moi tout le temps. J'avais ses livres, je me promenais, je lisais sa poésie sur la plage. Là où j'allais, j'avais Rilke avec moi. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire ce texte. J'avais commencé à la troisième personne, et puis j'ai un ami qui m'a dit, mais non, tu es un personnage, toi, tu devrais toi-même te mettre en scène. Alors j'ai dit, mais pas tout à fait moi, un peu moi, puis voilà.
C'est ce que oui, il y a un peu de vous, moi je me suis dit, moi je vais lui demander, Evelyne se met un peu nue là-dedans, non?
Pas tout à fait. Un peu, mais pas tout à fait. Parce que franchement, Evelyne, elle n'aurait pas été vers un jeune homme comme ça. Elle n'aurait pas été attirée du tout par un jeune homme, du tout. Mais là, j'ai voulu un peu déstabiliser
oui.
Les lecteurs.
C'est une manière de nous déstabiliser, quoi.
C'est ça, oui.
Ouais. Est-ce que les amis vos amis qui vous entourent, là, comment ils ont réagi quand ils ont lu ce livre ? Ceux qui l'ont déjà lu.
J'ai eu des commentaires tellement positifs et je n'en suis pas revenue. Je pensais que j'aurais eu des critiques constructives, mais des critiques. Mais il y a même une grande amie à moi qui m'a écrit c'est du Paolo Coelho. J'ai dit oh non, t'exagères là. Un autre qui me dit Alessandro Baricco. J'ai dit vraiment, vous exagérez. Ils m'ont dit non, on n'exagère pas vraiment. Tu as une plume exceptionnelle. Alors moi, je me disais, et je me suis toujours posé la question si j'avais vraiment une plume si intéressante que ça, parce que je me souviens que ma mère corrigeait mes compositions françaises et elle pointait seulement les fautes d'orthographe. Alors je me disais, est-ce qu'une plume vient avec les compositions, etc. Bon, voilà, non, j'ai eu des...
Non, moi je n'étais pas surpris, de toute façon, je connais votre plume, Evelyne, je connais la plume d'Evelyne, donc ça ne m'a pas surpris quand je... Il y a des parties qui me faisaient rire, par exemple, je me dis, waouh, elle n'a pas changé, elle continue dans sa langue, c'est comme ça. Même si elle a changé de plume, même elle, l'écriture reste pareille. C'est elle, ça. J'ai dit, c'est ce que je sais d'Evelyne, au fait, sur le plan écriture. Voilà.
Et vous savez, Odile Tremblay, qui est une lectrice exceptionnelle du Devoir,
oui.
Ça a été son coup de cœur il y a 2 semaines. Elle a décrit ce livre en le mentionnant comme son coup de cœur de la semaine. Voilà.
Ah ouais.
Ça m'a beaucoup touchée venant d'elle parce que C'est une femme qui elle-même a une plume exceptionnelle.
Oui, oui. Bon, moi, j'ai commencé tout de suite en disant c'est un bijou. Voilà.
Ah, c'est
ça a été facile la collaboration avec la même édition Nord-Sud.
Oui, ça a été, c'était facile parce que Karim Akouche est lui-même un écrivain. Donc oui, c'est facile. Ça a été facile, oui.
On s'est parlé aujourd'hui. Je lui ai dit que je te recevais aujourd'hui.
Ah d'accord. Oui, Karim.
C'est un ami commun.
C'est un personnage aussi.
Voilà, c'est un personnage. Hein. Il est bouscule avec sa plume aussi. Alors moi j'ai hâte de voir la suite, hein, sincèrement.
C'est vrai.
Evelyne, je vais pas mettre de pression sur Evelyne, mais j'ai hâte de voir la suite.
Et si c'était sur un autre écrivain, ça irait.
C'est ce qui fait que j'ai parlé de trilogie. On ne sait jamais. Bon, ouais, allez-y. Parce que le monde de Rick est grand quand même. Hein. Ça va pas s'arrêter à ce roman-là.
Ah non, pas du tout. Mais avec celui-là, j'ai essayé de rentrer l'invisible dans l'invisible de Rick. Mais je ne sais pas si je continuerai sur Rick. Peut-être pas. Peut-être une femme, pourquoi pas.
Oui.
Pourquoi pas une femme qui était dans l'invisible, elle aussi, qu'on a essayé de garder dans l'invisible, ou bien André Breton.
Oui,
pourquoi pas André Breton aussi, qui a écrit Arcane 17 à Percé en Gaspésie. Pourquoi pas une espèce de trilogie sur la rencontre d'écrivains.
Alors, qu'est-ce un dernier mot pour ceux qui écoutent, ceux qui n'ont pas. Moi personnellement, là, je me dis. Et puis, et votre ami, là, comment dirais-je, celui qui a fait l'illustrationniste, là, vraiment. Mm-hmm. Ça a coupé le souffle. Hein, je suis tombé sur les illustrations, là, je me suis dit, waouh!
Wow. Oui, il est exceptionnel. Je ne veux pas gâcher le punch du livre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui, il peint des décors, il peint des villes. Mais bon, je ne dirai pas ce qui s'est passé à la fin, mais parce que c'est la fin de mon livre et c'est exactement lorsqu'il m'a présenté un tableau, je l'ai utilisé pour la fin du livre. Et on va laisser l'intrigue ainsi, mais Salvador Chica Jiménez est un grand peintre, un aquarelliste. Moi, je fais de la peinture à l'huile et je peux vous dire que je l'ai vu à un moment donné, je lui ai dit « Bon, tu ne peux pas me montrer à faire de l'aquarelle ?» Il ne pouvait pas me montrer, il a fait ça, il a fait un tableau en 10 minutes. C'était époustouflant. Un énorme talent. Et il vend ses aquarelles à Mijas, à Fuengirola, Benalmadena, à la boutique en face du musée Picasso à Malaga. Alors il vend des posters, des cartes postales de l'Andalousie.
Wow, j'espère qu'il arrive à vivre de son art. C'est pas évident.
Pas tout à fait.
Ouais,
c'est pas évident pour les artistes.
Ouais.
Voilà.
Evelyne, on est à la fin de l'entrevue. J'ai dit merci beaucoup pour ce bijou que j'entre les mains ici.
Merci.
Bravo.
À toi.
Alors j'attends la suite. Je répète.
Avec
Allez.
Avec plaisir.
Ouais, Catherine m'a laissé entendre que Evelyne veut aller passer l'hiver en Andalousie.
Oui, je repars très rapidement. J'étais ici pour le Salon du Livre et pour lancer le livre. Maintenant, je repars tout de suite en Andalousie.
Bon hiver au soleil, au bord de la mer là-bas.
Merci.
Au plaisir de réentendre Evelyne pour un autre, pour la suite de cette histoire, de cet amour avec Rilke. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà. Merci à toi, Nicolas. Merci aux auditeurs et merci à notre invitée Evelyne Abitbol pour son livre Rilke et l'abandon. Merci à nos auditeurs fidèles, bien sûr. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et je dis ciao.